Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Merci d'être encore à l'écoute du magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Bienvenue aux nouveaux auditeurs de Mélomanie. Je vous l'avais annoncé lors de notre précédent numéro, les musicales franco-russes se sont poursuivies et terminées à Toulouse la semaine passée. Nous allons donc leur consacrer encore une fois une bonne partie de cette émission, du moins la première, puisque les ultimes concerts de ce festival ont été donnés par les très prestigieux orchestres et chœurs du Bolchoï. Pour m'assister dans cette mission, je suis heureux d'accueillir mes camarades Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, et Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Avec eux, j'accueillerai tout à l'heure l'invité d'honneur de ce numéro, Emmanuel Gaillard, directeur d'Audisud Blagnac, même si ce sera par téléphone parce qu'Emmanuel Gaillard est très pris ces jours-ci. La 12e édition des rencontres des musiques baroques et anciennes a lieu en effet à Audisud du 3 au 15 avril. Elle est sous-titrée cette année « Le baroque en perspective ». Nous verrons pourquoi tout à l'heure en seconde partie d'émission en regardant le détail de la programmation avec Emmanuel Gaillard. Pour l'instant, place à l'actualité musicale de la semaine dernière avec notre rubrique « Retour arrière ».
Mélomanie, retour arrière.
Je le disais il y a quelques instants, les musicales franco-russes se sont terminées dimanche dernier par un ciné-concert à la Lograin de Toulouse. Avant cela, il y a eu au même endroit les deux concerts donnés par l'orchestre et le chœur du Bolchoï, sous la direction bien sûr de Tougan Sokiev, deux événements présentés par les grands interprètes, certainement les points d'orgue de cette première édition du nouveau festival franco-russe. Jeudi 14 mars, c'était la version concert de la Dame de Pique, l'opéra de Tchaïkovski qui était au programme. Dans la salle, deux spectateurs attentifs et connaisseurs, Anne-Marie Chouchan et Serge Chauzy. Alors, mes amis, racontez-nous un peu votre soirée.
Eh bien, je n'hésiterai pas à qualifier cette soirée d'historique. C'était véritablement exceptionnel. On a déjà entendu la Dame de Pique à Toulouse, hein, mais avec un tel orchestre et un tel chœur, j'avoue jamais, hein, c'était vraiment extraordinaire. Alors, il faut dire que, bon, les deux phalanges en question, moscovites, c'est dans leur ADN, hein, voilà un opéra qu'ils doivent jouer de manière régulière, affiché à la, dans ce magnifique théâtre du Bolchoï. Et donc, ça a été vraiment un moment formidable. Alors, je voudrais d'abord dire la qualité de l'orchestre. Vraiment, la qualité intrinsèque de l'orchestre est formidable. Hein. C'est un orchestre avec des équilibres entre les pupitres magnifiques, des couleurs typiques, des couleurs russes. Très... Tougan Sokiev disait qu'entre la musique russe et la musique française, il y avait des liens. Et pour lui, l'un des liens, c'était la couleur. Et ben effectivement, là, on a eu un déploiement de couleurs tout à fait extraordinaire. Et puis, il faut le dire, la direction de Tougan Sokiev est magnifique. Bon, il l'avait déjà donné d'ailleurs au Théâtre du Capitole.
En 2008, c'était le premier opéra qui dirigeait à Toulouse.
Exactement, 2008. Mais là, évidemment, il était avec ses forces moscovites, l'orchestre et le chœur. Donc l'orchestre magnifique, hein, avec une dynamique incroyable. Hein. Ça va du pianissimo jusqu'à l'explosion, à l'éclat flamboyant. Donc très très beau. Et le chœur, c'est pareil, vraiment... Une cohésion, une vérité. On a l'impression d'assister à quelque chose de vrai, là, hein, authentique. Alors, il faut dire que l'œuvre est extraordinaire. Musicalement, elle est magnifique. Dramatiquement aussi. Hein. Donc, on a pu suivre ça, d'autant mieux que le surtitrage a beaucoup aidé à suivre l'intrigue. Hein. C'est quand même très important. Et alors, moi, ce qui m'a beaucoup... impressionné dans le traitement de l'orchestre, c'est les épisodes, notamment comme cet épisode avec ce rythme haletant, des altos qui symbolisent un peu, qui sont l'image de l'obsession du personnage principal, Hermann. Donc, c'était vraiment à donner la chair de poule. Hein. On y croyait à fond, complètement. Ensuite, il n'y a pas que les chœurs et l'orchestre, il y a quand même la troupe des solistes du Bolchoï. Et là aussi, alors, moi, ce qui m'a surtout intéressé et passionné, c'est l'esprit de troupe qui règne dans cet ensemble de chanteurs. Ce ne sont pas des vedettes internationales qui viennent pour faire une performance, c'est vraiment un ensemble. Et ça n'a pas de prix.
Même si certains d'entre eux font des vraies carrières internationales.
Bien entendu.
Un peu partout dans le monde. Hein.
Bien entendu. Mais là, c'était tous des Russes. Et ils sont tous issus de la troupe du Bolchoï. Donc vraiment, c'était parfait. Alors le dosage aussi était très bien. Alors, moi, j'avais un peu peur quand j'ai vu les chanteurs au sein de l'orchestre. Mais finalement, c'est peut-être mieux que quand ils sont au premier rang. Parce que quand ils sont au premier rang, c'est une part plus petite de la Lohgren qui entend bien leur prestation.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, ça...
Et donc, le fait qu'ils soient reculés un peu loin, eh ben, finalement, ça a très bien marché. Et donc, l'équilibre était vraiment excellent. Alors, il y avait 12 solistes quand même, hein, 12 Russes, comme je l'ai dit, avec certaines voix vraiment tout à fait magnifiques, avec notamment celle de Nikolai Kazansky, qui incarnait le personnage Tomsky, qui est un personnage important, hein, dans l'œuvre, avec un timbre de baryton basse tout à fait magnifique. Et puis j'ai beaucoup apprécié aussi le fameux air, c'est peut-être l'air le plus célèbre de la Dame de Pique, l'air du prince Yeletsky à l'acte 2, magnifiquement chanté par Igor Kolovatenko. Et d'ailleurs, c'est le seul qui, à la fin de son air, a eu droit à une salve d'applaudissements. Parce que c'était vraiment tout à fait beau, tout à fait intéressant. Et puis, il y avait la mezzo-soprano Agunda Kulaeva, qui était la compagne donc, du personnage féminin principal, Lisa. Lisa, donc, était chantée par Anna Nechaeva. Alors, avec un thème très clair, très juvénile, très russe, évidemment. Mais vraiment... très incarnée, je l'ai trouvée très convaincante. Et puis la mezzo-soprano Elena Manistina, qui elle incarnait la vieille comtesse, hein, avec cette fameuse scène stupéfiante, et où elle chante en français l'air de Grétry, extrait de Richard Cœur de Lion, si je me souviens bien. Ah, là, c'était tout à fait impressionnant. Et puis enfin, peut-être le rôle principal, tenu par le ténor Oleg Dolkov, qui interprète donc le rôle d'Herman, le joueur, la victime d'une addiction incroyable. Alors, lui, c'était certainement pas la voix la plus puissante qui franchissait le mieux le barrage de l'orchestre, mais il interprétait le rôle de manière touchante. J'ai trouvé qu'il a bien fait évoluer ce personnage depuis la passion pour Lisa jusqu'à la folie à la fin. Donc, c'était vraiment une belle réussite.
Anne-Marie.
Oui, ben, je dirais comme Serge qu'il s'agit d'une très belle réussite, mais je crois que Tugan Sokiev avait prouvé dès la première fois en 2008 que cet ouvrage, il était vraiment capable et touché par cet ouvrage qui est à la fois fantastique, qui est en même temps dans certaines pages une course à l'abîme terrible, et qu'il dirige ça lui-même avec quelque chose d'incroyable, une rythmique qui est une course à l'abîme, quelque chose qui nous entraîne vers des choses non rationnelles, puisque l'ouvrage est à la fois fantastique avec l'histoire de la comtesse, des fameuses trois cartes, et tout ça baigne dans un climat terrible en même temps, et le final de l'ouvrage avec cet orchestre du Bolchoï chauffé à blanc, c'était un moment d'opéra inouï. Cet orchestre du Bolchoï qui joue à fond avec des sonorités qui sont plus fortes, si on peut dire, qui sont des sonorités en permanence.
C'est très intense.
C'est très intense.
Et profonde.
Qui joue cette œuvre, c'est vrai, c'est dans son arbre généalogique. Le Fidal était à couper le souffle. Cet ouvrage est un du répertoire russe qui est le plus incroyable et qui touche aussi beaucoup le public français, puisque le public était vraiment enthousiaste. C'est vrai que Herman n'avait pas la voix d'un Vladimir Galouzine qui l'avait chanté en Toulouse en 2008,
exactement,
qui était une voix d'airain, une voix qui semblait n'avoir aucune limite. S'il avait des aigus qui étaient solides, le médium et le bas du registre n'étaient pas aussi puissants, mais en même temps, il incarnait un héros peut-être un peu plus fragile, qui était autre chose un petit peu, et je crois que l'ensemble était très réussi, et tout l'ensemble du Bolchoï nous a fait vivre des moments inoubliables.
Serge, vous vouliez préciser quelque chose?
Oui, je voudrais rappeler que ce n'est pas la première fois que Tugan Sokiev dirige le chœur et l'orchestre du Bolchoï à Toulouse. Et je voudrais rappeler une représentation vraiment très belle et mémorable à l'époque, en 2017, de la Pucelle d'Orléans de Tchaïkovski.
Ah oui, hein. oui, tout à fait.
Et donc, là aussi, il y avait toutes les forces réunies du Bolchoï, et c'était aussi une très belle soirée.
Il faut repréciser, on ne l'a pas précisé, qu'il est directeur musical du Bolchoï.
Oui, bien sûr.
Depuis deux ou trois ans.
Bolchoï, depuis plus
2014.
Depuis 5 ans même maintenant. Hein.
Ça va faire 5 ans.
Oui, le temps
2014,
passe.
Ouais. Donc, c'est une maison aussi dans laquelle il s'investit beaucoup.
Oui, je pense que ça commence à se savoir à Toulouse. Alors, La Dame de Pique est une œuvre immense avec de nombreux morceaux de bravoure. Parmi les airs célèbres, il y a par exemple celui de Lisa à l'acte 3. En voici une version interprétée par Galina Gortchakova sous la direction de Valéry Gergiev. L'air de Lisa de l'acte 3 de la Dame de Pique, interprété par Galina Gortchakova et l'orchestre du théâtre Mariinsky dirigé par Valery Gergiev. L'opéra de Tchaïkovski était donc donné en version concert par l'orchestre et le chœur du Bolchoï jeudi 14 mars à la Lograin, sous la direction de Tougan Sokiev, avec 12 chanteurs solistes. Et les mêmes, à quelques chanteurs près concernant les solistes, avaient donné rendez-vous au public le lendemain, vendredi 15 mars, encore à la Lograin pour la version concert d'un autre grand opéra du répertoire russe, Ivan le Terrible de Nikolaï Rimski-Korsakov, une œuvre consacrée au premier tsar de toutes les Russies. Et là, nous étions présents tous les trois pour assister à cette représentation tout aussi attendue que celle de la Dame de Pique. Alors, pour ma part, je ne sais pas si tout a été parfait, mais ce que j'ai entendu ce soir-là m'a semblé de très haut niveau de bout en bout, que ce soit en ce qui concerne l'orchestre, le chœur, ou les solistes, et tous les solistes. Est-ce que c'est aussi votre avis, Anne-Marie et Serge ?
Oui, tout à fait. Parce que c'est un opéra qui est dans sa facture plus classique, avec une intrigue autour d'Ivan Terrible, mais une histoire sentimentale d'une jeune fille qui ne sait pas encore lui-même que c'est sa fille, que l'on veut forcer à épouser un homme qu'elle ne veut pas épouser. En fait, c'est une histoire assez classique, mais qui en même temps est d'une beauté orchestrale, et surtout le chœur. Les chœurs sont magnifiques, c'est tout à fait dans la lignée de ce qu'on aime dans l'opéra russe, avec une beauté des voix de chœur, de l'orchestre, et c'était la découverte de cette œuvre que peu de gens, dont moi-même, n'avaient... Hein.
Ben, en version concert, en tout cas, à Toulouse, je pense que c'était vraiment une première.
Et a fortiori, en version d'opéra.
Alors là, oui, alors là, j'en parle même pas, hein, mais même en version concert, même c'était vraiment une première. Hein.
Oui, parce qu'il y a des beautés. En plus, Rimski-Korsakov, dont on connaît surtout le fameux Scheherazade ou autre, oui, était un orchestrateur.
Oui, qui a eu une énorme influence ensuite sur les compositeurs
donc
russes.
L'œuvre compte pour cela, et puis aussi le traitement du cœur autour d'une histoire donc assez banale, mais qui est l'occasion de découvrir une basse russe qui chante Ivan le Terrible, qui est Stanislav Trofimov, une voix magnifique et toute une équipe aussi de chanteurs.
Alors oui, il va vraiment falloir qu'on parle des solistes, ouais. Peut-être pas un par un parce qu'il y en a beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui font sortir du lot, qui ont été extraordinaires. Absolument. Et Serge, vous allez nous en parler maintenant.
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, bon, il faut quand même rappeler qu'Ivan le Terrible, c'est le titre qui
France.
A été pris en France, hein, puisqu'on pouvait décidément pas qualifier cet opéra de son titre original, qui en principe devrait être la Pskovitaine, c'est-à-dire la jeune fille de Pskov, la ville, la fameuse ville, donc qui est assiégé par Ivan le Terrible, tout se passe dans cette ville-là. Alors, effectivement, là aussi, le chœur, l'orchestre et l'orchestration rutilante de Rimski-Korsakov.
Ça, musicalement, c'est très fort. Hein,
ah oui, oui, on connaît ça, oui, oui. Avec une belle distribution. Hein. Alors, Stanislav Trofimov, il succédait à des décennies proches du grand Fédor Chaliapin, qui a été la grande basse qui a triomphé dans ce rôle-là.
Il y a un siècle à peu près.
Hein, oui, il y a un siècle. Effectivement, on ne peut pas comparer, d'autant plus que je n'ai pas eu l'honneur d'entendre Fédor Chaliapin en direct.
Les enregistrements de l'époque ne sont pas arrivés jusqu'à
nous. Ne sont pas excellents, donc voilà. Oui, Stanislav Trofimov était très nuancé. Alors, la projection de la voix n'était peut-être pas aussi forte qu'on l'aurait aimé, parce que c'est un personnage d'une force et d'une intensité incroyable, hein, qui dit trois mots ordinaires et ça bouleverse tout. Mais c'était en tout cas très nuancé.
Il avait une chose, c'est qu'il avait le physique de l'emploi.
Tout à fait, avec une
longue
magnifique barbe.
Voilà.
Ah oui, 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 oui. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le couple, les jeunes, le couple des amoureux, Tucha Olga, qui vraiment, aussi bien physiquement d'ailleurs que vocalement, était complètement vraisemblable. Il faut dire quand même que le jeune ténor, il est jeune, hein, donc Ilya Selivanov, possède une voix magnifique, une voix lumineuse, claire.
Un timbre d'une clarté.
Très lyrique, splendide.
Une agilité dans les aigus phénoménale.
Ah, oui, oui, oui.
Très, très prometteur, ce garçon.
Ah, tout à fait. Hein. Il est à suivre. Et puis, sa compagne, donc Olga, c'était la soprano Dinara Alieva, avec une intensité sonore, déjà, qui est tout à fait d'une ampleur impressionnante, un très beau timbre, très riche, et donc un éclat vraiment impressionnant.
Alors, elle,
donc,
chanteuse qui fait déjà une grande carrière internationale,
oui, oui, oui.
Qui était la protégée de Montserrat Caballé tout de même. Voilà,
oui,
donc, très très belle chanteuse.
Oui, oui, oui. Plus d'autres, dont la basse Denis Makarov, qui chante Tokmakov, donc le pseudo-père d'Olga.
Il y avait des mezzo-soprano formidables.
Des mezzo, oui, oui, oui. Avec la même mezzo que celle qui chantait la comtesse la veille, donc. Puis bon, non, vraiment. C'était la grande tradition romantique russe qui était présente là pour cette représentation. Vraiment, ça terminait ce triptyque, puisqu'il y avait eu au tout début un concert du chœur a cappella dont on a parlé la semaine dernière. Bon, ça fait un triptyque magnifique, hein.
Oui, c'était en apothéose, là, vraiment.
Complètement.
Parce que,
oui,
encore
oui.
Une fois, moi j'insiste un peu là-dessus, pour moi je n'ai pas vu un accro dans cette dernière soirée, que ce soit le chœur, l'orchestre, la direction de Togan Sokiev, bien sûr,
oui, oui,
et
oui.
Les solistes, c'était vraiment le top niveau mondial.
Absolument.
Le Bolshoï, dans ce qu'il a de meilleur, eh bien, pour le plaisir, parce qu'elle est vraiment superbe, je vous propose de réécouter l'ouverture d'Ivan le Terrible. Je vais vous faire écouter encore une version dirigée par Valérie Gergiev. L'ouverture d'Ivan le Terrible, l'opéra de Rimsky-Korsakov, dans une version dirigée par Valérie Gergiev. Et j'en profite pour rappeler qu'Ivan le Terrible, c'est aussi le titre d'un des plus grands films de l'histoire du cinéma, réalisé par Sergueï Mikhaïlovitch Eisenstein. Nous allons justement parler maintenant de cinéma, puisque l'événement qui clôturait les musicales franco-russes samedi dernier à la Halle aux Grains, c'était donc un ciné-concert avec la projection de La Nouvelle Babylone de Grigori Kosintsev et Leonid Trauberg. Film muet tourné en 1929, issu des collections de la Cinémathèque de Toulouse, et cette projection était accompagnée par une partition originale de Dimitri Shostakovich, interprétée par l'Orchestre National du Capitole sous la direction du chef britannique Duncan Ward. Anne-Marie Chouchan a pu y assister, et vous qui aimez la musique et le cinéma russe, comment avez-vous trouvé ça, Anne-Marie ?
Écoutez, l'entreprise était assez nouvelle puisqu'il s'agissait d'accompagner un film muet avec rien de moins que la partition originale de Dimitri Shostakovich, jouée par l'orchestre du Capitole, puisque les films muets sont souvent accompagnés au piano, pas toujours par un orchestre, loin de là. Donc c'était en même temps un spectacle complet, avec un film qu'on a découvert. Il est conservé à la Cinémathèque de Toulouse. Donc c'est un film de 1929, de metteur en scène russe, dont le nom n'est pas toujours facile, hein, Grigori Kozintsev.
Je les ai dit, donc ça va.
Voilà, c'est pas la peine.
Ça ira.
Voilà. Donc ça raconte la Commune de Paris.
Ouais.
La Commune de Paris avec une force dramatique terrible, parce qu'en même temps, la façon de filmer ça dans une époque soviétique, ça mettait l'accent bien sûr sur la souffrance du peuple qui se battait lors de cette insurrection terrible, et tout ça porté par la musique de Shostakovich. Et ce film est incroyable, parce que la façon de traiter le sujet, même si on a voulu vraiment montrer, c'est vrai, la souffrance surtout du peuple en France, en même temps, la façon de filmer les gros plans, de filmer les gens, et ce film est très prenant et en même temps porté par cette musique de Shostakovich, qui d'ailleurs n'a pas été souvent reprise, parce qu'il paraît qu'à l'époque, elle a été moyennement appréciée en Union soviétique. Elle a, je crois, accompagné le film à deux ou trois reprises, et qu'ensuite, ça a cessé. Et là, c'était vraiment une entreprise complète, et les gens étaient ravis de découvrir ce film que personne n'avait vu avec cette musique.
Oui.
Et l'orchestre, donc, qui a bien défendu cette partition, et c'était un spectacle et une belle conclusion de la semaine des musicales franco-russes.
Clôture, donc, de ces musicales.
Le film s'appelait La Nouvelle Babylone, je crois.
Oui, La Nouvelle Babylone. Apparemment, il y avait vraiment parfaite adéquation entre la musique et les images, et ce qu'on voyait à l'écran. Hein.
Et ce qu'on voyait à l'écran. Et en même temps, c'était un film sur la Commune de Paris.
Oui, oui. Donc, film russe sur la Commune de Paris. Donc là, on était encore dans le franco-russe, mais le chef qui dirigeait était britannique. Et c'était une première, je crois, parce qu'il est tout jeune, ce Duncan Ward.
Oui, il paraît, dans les coulisses, j'ai entendu dire qu'il a un talent fou et qu'on reparlerait sans doute de lui à Toulouse, ce jeune chef qui a dirigé ça très très bien, parce que c'est pas facile de diriger
c'est un exercice particulier, effectivement.
Oui, de diriger la projection d'un film muet avec un orchestre en plus, puisqu'il faut se préoccuper de l'orchestre.
Il faut être synchro quand même.
Il faut être synchro à la fois.
Oui, c'est fondamental.
Et rendre hommage aussi au côté de l'atmosphère du film. Enfin, c'était vraiment très très réussi, et sauf qu'en sortant, on n'était pas très dépaysés, puisqu'à la sortie, on sentait les grenades lacrymogènes, puisqu'il y avait des bagarres presque devant la halle au grain. Et donc, on était dans l'atmosphère
de la Commune en 1871, mais nous sommes en 2019.
Oh, voilà.
À croire que tout ça était aussi mis en scène, non, peut-être pas quand même. Mais pour revenir à Duncan Ward, je crois qu'il est, lui, sous la protection de Simon Rattle. Donc,
c'est déjà pas négligeable.
Il a dirigé l'ensemble intercontemporain, dirige pas mal d'autres formations. Il commence à vraiment faire beaucoup parler de lui, hein, y compris en France. Voilà, ben pour ceux qui, comme moi et Serge, ont raté ce ciné-concert La Nouvelle Babylone, en voici un extrait, ou plutôt voici un extrait de la musique originale composée par Dimitri Shostakovich.
Thank you.
Le début de la musique originale du film La Nouvelle Babylone, composée par Dimitri Chostakovitch, avec laquelle nous terminons cette première partie d'émission. Nous allons faire l'habituelle petite pause d'une minute, puis nous retrouvons Emmanuel Gaillard, le directeur de Dissud, pour évoquer avec lui le programme de la 12e édition des Rencontres des musiques baroques et anciennes. Restez à notre écoute, à tout de suite.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique ? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
Seconde partie de Mélomanie avec Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à La Dépêche du Midi, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et avec l'invité d'honneur de cette émission, Emmanuel Gaillard, directeur d'Audisud Blagnac.
Mélomanie, l'agenda.
Et comme annoncé, le directeur d'Audisud est au téléphone avec nous pour cette seconde partie d'émission. Bonjour Emmanuel Gaillard, et bienvenue et merci d'être au rendez-vous.
Bonjour Eric.
Alors donc, du 3 au 15 avril, vous organisez la 12e édition des Rencontres des musiques baroques et anciennes d'Audisud, un festival que vous avez fondé en 2008. Et cette année, vous avez sous-titré ce millésime 2019, le baroque en perspective. Expliquez-nous comment vous allez mettre le baroque en perspective, ou plutôt avec quoi vous allez le mettre en perspective.
Voilà effectivement le titre, met en valeur le fait que cette musique baroque, cette musique ancienne, elle peut être présentée dans le cadre de concerts. Voilà, on connaît la forme concert et son rituel, mais il peut y avoir des formes différentes qui permettent de mettre en valeur la musique dans un écrin différent, dans une esthétique différente. Et c'est un peu le projet de cette édition. À titre d'exemple, le premier concert, le concert d'ouverture, ce sera un récital de clavecin de Christophe Rousset, qui est un immense claveciniste et chef d'orchestre extrêmement réputé au niveau international, mais qui fera un récital de clavecin avec un danseur Alban Richard, qui est chorégraphe.
Alors, on va rentrer dans le détail de la programmation avec vous tout à l'heure, mais en fait, si j'ai bien compris, c'est que là, la musique baroque va être mise en perspective avec d'autres disciplines, d'autres esthétiques.
C'est ça, c'est exactement ça.
Donc la danse, vous venez de le citer, mais je sais qu'il y aura aussi de la mise en scène, il y a du chant a cappella, il y a de l'opéra. Est-ce que c'est la première fois que vous décalez un peu le concept du festival en y associant d'autres disciplines artistiques ?
Alors bon, il y avait déjà eu des opéras donnés comme ça dans la grande salle. Quand on fait de l'opéra, c'est en général des opéras de musique baroque, et cette fois-ci ce sera Didon aîné de Purcell, qui sera donné dans une magnifique production, très très belle esthétiquement, très aboutie, et l'œuvre est très émouvante. Mais en ce qui concerne la mise en scène, il y aura un autre spectacle, on peut véritablement parler de spectacle et plus seulement de concert. Ce sera par la main harmonique, qui est un ensemble assez exceptionnel basé dans le Gers, mais de niveau international, que dirige Frédéric Bétous. Et eux, leur spécialité, c'est la musique vocale a cappella de la Renaissance et du début du baroque. Donc un répertoire très très ciselé, très raffiné, très beau, très émouvant. Sauf que là, au lieu que ça soit un concert, on connaît donc le sextuor ou le quintet de chanteurs comme ça, avec leur pupitre tout droit et qui distille une musique merveilleuse, et bien là, il y aura un vrai travail de mise en scène et même de relation avec le public qui sera assez différent. Donc il y aura de la mise en lumière, il y aura des gestes, des paroles, et puis une attitude générale qui fera que ce sera une expérience différente, qui ne sera pas celle d'un concert traditionnel.
On va en reparler dans quelques minutes. Je vais revenir au concept de cette année, donc ce baroque en perspective, mis en perspective avec d'autres disciplines artistiques. Est-ce que lorsque vous avez fait la programmation, ça supposait de soumettre ce concept à certains artistes ou ensembles musicaux en leur demandant de faire une création à partir de celui-ci, ou alors c'est vous qui avez construit votre programmation en recherchant des productions déjà existantes qui pouvaient correspondre à ce que vous vouliez présenter?
Alors c'est un peu les deux. À vrai dire, il y a deux spectacles. Il y en a un qui va être créé pour l'occasion, celui de l'ensemble baroque de Toulouse, avec les Caprices de saison de Vivaldi, et celui dont je viens de parler, présenté par la main harmonique, qui s'intitule And Now, lui-même a été créé très très récemment. Mais en fait, moi je construis ma programmation un petit peu en fonction d'un thème, mais parfois le thème vient aussi en fonction de l'intérêt des projets qui me sont proposés, ou dont certains, je ne vais pas dire que je les suscite, mais ils naissent souvent parfois de conversations avec tel ou tel artiste.
Il peut y avoir une certaine interaction.
Les deux, mon général.
Oui. Voilà. Alors, on va regarder maintenant avec vous le détail de la programmation de ces prochaines rencontres des musiques baroques et anciennes d'Audi-Sud. Ouverture le mercredi 3 avril à 20h30 avec un spectacle musical dont vous venez de nous parler, intitulé Suite dansée, qui réunit donc le duo formé par le claveciniste Christophe Rousset et le danseur Alban Richard. Je précise que cette soirée a lieu au Petit Théâtre Saint-Exupère de Blagnac.
Oui, à Blagnac. Dans du Sud, qui est une petite salle merveilleuse où il y a une belle proximité avec les artistes.
Et ça fait partie, je pense, de le projet de ce spectacle. Il faut qu'on crée une certaine intimité entre le public et les deux artistes qui sont sur scène.
Bien sûr, bien sûr. Bon, le récital de clavecin, il ne faut pas forcément le faire dans la grande salle de du Sud.
Non, ça ne paraît pas adapté.
Bien entendu, hein.
Si vous nous présentez ces deux artistes, alors Christophe Rousset, évidemment, les amateurs de musique baroque le connaissent bien en tant que chef des talents lyriques, hein, de l'ensemble des talents lyriques,
oui.
Mais c'est aussi un merveilleux claveciniste.
Voilà, ce sont les deux. C'est un des plus grands artistes baroques vivants, très grand chef d'orchestre. Il a dirigé dans le monde entier, hein, son ensemble, mais il a également effectivement dirigé au Théâtre du Capitole dans les dernières années différentes productions d'opéra. Donc c'est évidemment quelqu'un un très très grand talent, mais c'est un très très grand claveciniste.
Oui.
La plupart des grands chefs sont instrumentistes, enfin même tous d'ailleurs. Tous le sont, mais pas forcément à un niveau, disons...
Oui.
International, avec enregistrement à la clé, tournée de concert, etc. C'est le cas de Christophe Rousset, donc très très grand claveciniste, l'un des plus grands vivants, tout simplement.
Et Alban Richard, si vous nous le présentez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui ?
Alban Richard, c'est un des jeunes chorégraphes dont on parle, hein, qui a une trentaine d'années, très talentueux, à telle enseigne qu'on lui a confié la direction de l'un des centres chorégraphiques nationaux. Il y en a une vingtaine dans le pays et il dirige celui de Caen. Voilà, donc c'est une vraie personnalité. C'est d'abord chorégraphe et également un danseur, mais là il sera un peu danseur, improvisateur et donc chorégraphe de lui-même en quelque sorte.
Deux des grands artistes de notre époque dans leur domaine respectif. Donc, alors j'ai vu que Christophe Rousset a interprété des œuvres du répertoire pour clavecin des 17e et 18e siècles et apparemment il choisit les œuvres qu'il va jouer au dernier moment et
c'est
Alban
ça.
Richard, lui, danse, il improvise dessus, c'est ça ?
C'est ça, c'est-à-dire qu'en effet le programme n'est pas connu. Christophe Rousset aura travaillé, mais Alban Richard, lui, ne saura pas exactement ce qui va être joué. Et donc, au fond, il y a une côté improvisé au moment, comme ça, qui donne une particularité et même une urgence, une sensation comme ça étonnante.
Un petit inconfort.
Qui donne une énergie spéciale. Quoi.
Ouais, voilà. Ouais, un certain inconfort, en tout cas, pour le danseur.
C'est une donnée, en tout cas, une contrainte et probablement quelque chose d'assez stimulant, très probablement.
S'ils ont décidé de procéder ainsi, il y a certainement de bonnes raisons pour le bien du spectacle, évidemment, pour le bien du public qui va y assister. Je rappelle que le rendez-vous est fixé avec Christophe Rousset, Alban Richard et leur suite dansée, mercredi 3 avril à 20h30 au Petit Théâtre Saint-Exupère de Blagnac. Et le spectacle suivant est donné dès le lendemain, jeudi 4 avril à 20h30, lui aussi délocalisé.
Alors, oui,
à l'arrière.
On parlait parce qu'au départ, au tout départ, ce concert spectacle, disons, de musique de la Renaissance a cappella, présenté par la main harmonique, devait être à Saint-Pierre-des-Cuisines. Mais comme entre-temps c'est devenu un véritable spectacle, eh bien il a fallu le mettre dans une salle de spectacle avec un peu plus de temps pour préparer et mettre en place le spectacle et le répéter. Et donc, ce n'était pas possible à Saint-Pierre-des-Cuisines. Donc, ce sera déplacé à l'Aria de Cornebarieux. Alors, l'Aria, c'est une très jolie salle de spectacle qui fait à peu près 400 places.
Toute récente.
Qui est toute neuve, qui a émergé il y a, je crois, 3 ans. Et avec qui Audi-Sud a entamé des partenariats. Et donc, c'est eux qui nous font le plaisir d'accueillir cette production assez exemplaire, encore une fois, puisque c'est finalement un spectacle et plus seulement un concert.
Oui, voilà. Parce que donc c'est « And Now » et maintenant en français dans le texte. A priori, ça n'a rien à voir avec la célèbre chanson de Gilbert Bécaud. Concert proposé, interprété, vous l'avez dit, par la main harmonique. Cet ensemble vocal qu'on connaît bien dans la région, puisqu'il est en résidence dans le Gers, à la Romieux. Le programme des œuvres qu'ils vont interpréter, alors je crois que c'est très varié. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de compositeurs.
Oui, c'est un peu des musts de la musique vocale a cappella de la Renaissance. Il y aura du Monteverdi, du Gesualdo, du Schütz, du Dowland et d'autres compositeurs. On n'a pas tout à fait le... Voilà, et ça fait partie un peu des surprises du programme. Mais enfin, voilà, en tout cas, ce sera des très très belles pièces choisies avec beaucoup de soin et l'interprétation absolument superlative. Hein. Et voilà, il faut...
Oui.
C'est un ensemble vraiment de niveau absolument international qui a enregistré de nombreux disques qui ont été encensés par la critique. Et puis c'est un répertoire à découvrir hein, qui peut-être par certains côtés pourrait passer pour un petit peu intimidant, mais en fait c'est de la musique de chambre vocale et puis beaucoup de choses se passent autour du texte et du sens des mots. Voilà, hein, ça raconte toujours des histoires, c'est de la musique profane et il y a souvent une narration ou un drame qui se noue, des émotions mises en scène et le fait de les, justement d'avoir une approche scénique met en relief et fait mieux partager, je pense, cette musique. En tout cas, les images que j'ai pu en voir de cette création, ça a été créé il y a quelques mois, vraiment donnent très envie et vous pouvez aller sur le site internet, il y a un petit teaser qui montre le spectacle, des extraits du spectacle. C'est tout à fait surprenant ce qu'ils ont réussi à créer et à dépasser complètement simplement la posture de concert.
Et la Marmonique a travaillé avec un metteur en scène pour l'occasion.
C'est ça. Alors le metteur en scène, c'est Michel Schweitzer, qui est un chorégraphe en fait et metteur en scène très doué. C'est une belle rencontre et ils ont parlé de ce projet depuis 2 ans. Donc vous voyez, c'est pas juste le metteur en scène arrive et hop, clac, clac, clac. Non, non, c'est quelque chose qui a mûri, le concept a mûri et les idées scéniques sont nées effectivement de ce travail en commun.
Oui, j'ai vu que chaque chanson, chaque pièce qui sera interprétée fait l'objet d'une présentation par les chanteurs sur scène. Donc voilà. Il y a des passages parlés qui évoquent le contenu littéraire de la pièce.
C'est la difficulté de cette musique, c'est que comme les mots comptent beaucoup, mais qu'on ne les comprend pas toujours, parce que la musique vocale est ainsi faite que même s'il y a une excellente prononciation, on peut capter un certain nombre de mots, voire de bouts de phrases, mais le capter le sens véritable est plus difficile. On le capte parce que la musique transmet des émotions, mais on ne sait pas dire finalement le vrai thème, ce que ça raconte précisément, on ne le sait pas toujours. Et en effet, c'est l'un des aspects de ce projet, c'est de mieux rentrer dans la dynamique des textes chantés.
Alors, parmi les œuvres qui devraient être chantées par la Marmonique, il y en a une du compositeur anglais Thomas Morley. Elle date de 1595 et elle a pour titre « Now is the month of Maying », qu'on peut traduire « Voici venu le mois de mai ». Eh bien, nous ne sommes pas encore en mai, quoique nous ayons déjà eu des journées qui pourraient le faire croire. Mais nous allons écouter la Marmonique qui interprète « Now is the month of Maying ».
Now is the month of Maying, when merry lads are playing, fa-la-la-la-la-la-la, fa-la-la-la-la-la. Now is the month of Maying, when merry lads are playing, fa-la-la-la-la-la-la, fa-la-la-la-la-la, fa-la-la. Each with his ballinas upon the greeny grass, fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Each with his ballinas upon the greeny grass, the spring clad all in gladness with naught but winter sadness, fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. The spring clad all in gladness doth laugh at winter sadness, fa-la-la-la-la-la-la, fa-la-la-la-la-la-la. And to the bagpipe sound, the leaves spread out their ground. And to the bagpipe sound, the leaves spread out their ground. Fie then, why sit we musing, you sweet delight refusing? Fa-la-la-la-la-la-la. Fie then, why sit we musing, you sweet delight refusing? Fa-la-la-la-la-la. Fa-la-la-la-la-la. Say, didn't innocence speak? Shall we play body break? Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-
Now the Months of Maying, pièce de Thomas Morley, interprétée par l'ensemble La Main Harmonique. Et vous pouvez noter que la formation de Frédéric Béthouse donne son concert Now à l'Aria de Cornebarieux, jeudi 4 avril à 20h30. Le spectacle suivant est programmé mercredi 10 avril à 20h30 à Audi-Sud cette fois-ci. Il s'agit d'un opéra, le célèbre Didon et aîné d'Henry Purcell. C'est l'ensemble Diderot qui va le donner. Alors moi j'avoue que je ne connais pas cette formation. D'où nous vient-elle, Emmanuel Gaillard ?
Alors, ce sont des musiciens français, parisiens pour la plupart, et dirigés par un grand violoniste et chef d'orchestre qui s'appelle Johannes Pramsoller, qui lui est, je crois, autrichien. Très grand talent, c'est un ensemble récent, mais vous savez, il y a une génération de talents incroyables de jeunes musiciens français formés à l'interprétation de la musique baroque, qui sortent des conservatoires de Paris, mais aussi de Toulouse et d'autres endroits. Ce sont des générations très nombreuses, très talentueuses, et donc il y a beaucoup, beaucoup de jeunes ensembles qui se fondent un peu partout en France. Et c'est formidable. Alors ici, on connaît évidemment un certain nombre d'ensembles baroques bien connus, bien repérés, mais il y a plein de nouveaux ensembles qui émergent un petit peu partout. Donc on sent que là, il y a une infusion, une diffusion de la musique baroque, et un très grand nombre d'ensembles qui se créent. Voilà, donc ça fait partie, cet ensemble des duos des plus talentueux. Et c'est une production lyrique, donc, avec une mise en scène, un chœur, un orchestre, des chanteurs solistes, donc l'opéra d'Hydon Aîné, et avec une mise en scène signée Benoît Bénichou, et c'est une production de l'Arcal, qui est une compagnie spécialisée dans les opéras en décentralisation, c'est-à-dire des opéras qui sont dans un format qui permettent de tourner. Autrement dit, c'est des formations où il y a assez souvent une trentaine d'artistes sur scène qui sont compatibles avec des tournées, voilà, tout simplement, et avec une qualité artistique top niveau.
Hydon Aîné, le premier opéra de l'histoire de la musique anglaise.
Absolument, composé en 1689, donc inspiré évidemment de Virgile.
De l'Énéide.
C'est la passion effectivement entre la reine de Carthage, Didon, et le prince troyen aîné. Voilà, et toujours des histoires d'amour impossibles, déchirées entre amour et devoir. Voilà, c'est des histoires qu'on retrouve depuis l'Antiquité et qui ont traversé les époques, jusqu'au mélodrame romantique de Victor Hugo ou de Giuseppe Verdi.
Eh bien voilà, vous avez tout dit. Alors, peut-être que nos auditeurs ont envie de découvrir ou de se remettre dans l'oreille le Hydon Aîné d'Henry Purcell. Voici une version des Arts florissants dirigée par William Christie. Un extrait de Hydon et Aîné interprété par les Arts florissants sous la direction de William Christie. Et je rappelle que l'opéra d'Henry Purcell est donné mercredi 10 avril à 20h30 dans la grande salle d'Audi Sud par l'ensemble d'Hydro. Concert suivant dimanche 14 avril à 18h en l'église de Blagnac, avec un programme qui mêle le baroque et le contemporain, donné par l'ensemble Les Ombres. Ce concert est titré Souffle Sacré. On va y entendre deux compositeurs aussi différents que François Couperin et Gérard Pesson. Présentez-nous ce programme et l'ensemble Les Ombres, Emmanuel Gaillard, qui je crois est basé à Montpellier, c'est ça?
C'est ça. Les Ombres, encore un ensemble extrêmement talentueux, vraiment parmi les plus talentueux, reconnus, repérés au niveau national mais également international. C'est vraiment une Rolls, là aussi de jeunes artistes qui ont la trentaine d'années, extrêmement talentueux et basé en effet en Occitanie à Montpellier. Ce sera je crois la troisième ou peut-être même la quatrième fois qu'on les programme ces dernières années. Ils viennent pratiquement chaque saison maintenant à Audi Sud. Et donc l'une de leurs spécialités c'est la musique baroque française et en particulier François Couperin. François Couperin, donc, qui est ce compositeur immense, qui a fait beaucoup de musique sacrée, aussi de musique de clavecin, notamment, et de musique instrumentale. Et ils viennent d'enregistrer précisément les fameuses et sublimes Leçons de ténèbres de François Couperin, donc en CD, un CD qui vient juste de sortir. Et donc, ça fera partie des événements de ce festival, puisqu'il s'agit de musique vocale absolument sublime. Voilà, les Leçons de ténèbres qui sont données pendant la Semaine Sainte, et basées sur le texte des Lamentations du prophète Jérémie.
Oui.
Voilà, donc c'est un moment, alors là, de musique sacrée extrêmement pure, épurée, avec un entrelac des deux voix. Donc il y a deux sopranos, il y a deux leçons qui sont pour soprano solo, et puis la troisième, la dernière Leçon de ténèbres, c'est avec les deux sopranos, et là, ce sont des mélismes, des ornementations, un entrelac incroyable entre les deux voix de soprano. C'est absolument sublime, et c'est avec un ensemble instrumental, violon, théor, basse de viol, clavecin, flûte, qui vraiment enveloppe et donne un écrin magnifique à cette œuvre, qui est vraiment l'un des grands chefs-d'œuvre de l'histoire de la musique sacrée, hein, ouais. Faut-il le rappeler.
Bien entendu. Alors, les hommes qui ont déjà collaboré, je crois, avec les éléments de Joël Subiette, hein, qui sont en résidence chez vous.
Oui, c'est bien ça. Puis... Et puis, les deux voix en question, c'est Chantal Santon, qui d'ailleurs sera la Didon de l'Opéra de Purcell, qui sera dans la grande salle le 10 avril, et qui sera quelques jours après dans ses sublimes Leçons de ténèbres. Donc, c'est une des plus grandes chanteuses actuelles, Chantal Santon, et l'autre soprano, Anne Magouette, aussi, magnifique soprano.
Oui, qu'on entend souvent avec les Passions de Montauban.
Qui a travaillé avec les Passions et les Éléments.
Oui, absolument. Alors, il y a une particularité quand même dans ce concert, c'est qu'il y a Couperin, mais il y a aussi deux pièces de Gérard Pesson, grand compositeur français de notre temps.
Compositeur vivant, voilà, et nous, à Audisud, et les artistes aussi aiment bien mettre en regard de la musique ancienne et une création contemporaine qui vient mettre un écho un peu différent. Faire un effet de contraste, de mise en perspective justement de cette musique ancienne. Donc il y aura une création toute récente, 2018, de Gérard Pesson qui s'appelle Une ombre errante.
Oui, et ça a été, je pense, commandé d'ailleurs par l'ensemble des ombres directement à Gérard Pesson.
Exactement.
Eh bien, j'ai un extrait du CD dont vous avez parlé il y a quelques instants à vous proposer pour découvrir les Leçons de ténèbres de François Couperin interprétées par les ombres. En voici un petit aperçu. Un extrait des Leçons de ténèbres de François Couperin, interprété par l'ensemble Les Ombres, qui donne cette œuvre ainsi que des pièces de Gérard Pesson lors de son concert Souffle Sacré. Ce sera le dimanche 14 avril à 18h à l'église de Blagnac. Nous en arrivons au dernier concert des Rencontres des musiques baroques et anciennes 2019. Il est programmé lundi 15 avril à 20h30 à Audisud pour la soirée de clôture. Là, c'est une formation qu'on connaît bien et une habituée de ce festival qui va s'y produire, l'Ensemble Baroque de Toulouse, fondé et dirigé par Michel Brun, avec un programme intitulé Vivaldi, Caprice de saison. Alors je pense que certains ne vont pas manquer de se dire encore les quatre saisons de Vivaldi, mais connaissant la petite bande dans l'ensemble baroque, ça doit être les quatre saisons, mais revues à leur manière, n'est-ce pas Emmanuel Gaillard ?
C'est tout à fait ça. Caprice de saison. Alors effectivement, le titre intrigue un peu. Vivaldi, Caprice de saison. So what ? Eh bien, précisément, en effet, nous allons entendre, certes, les quatre saisons de Vivaldi dans leur intégralité, mais dans chaque mouvement et à plusieurs reprises, il y aura des prolongations inattendues, surprenantes, un peu décalées, un peu folles, qui viendront prolonger l'ambiance des quatre saisons. D'ailleurs, les quatre saisons elles-mêmes, c'est de la musique folle. c'est une musique folle, oui. C'est une musique descriptive d'une inventivité hallucinante. La Vivaldi est un révolutionnaire à sa façon. Il a vraiment, nous faire partager des sentiments. Et puis la peinture des quatre saisons, printemps, été, automne, hiver, d'une façon incroyable. Et donc là, c'est l'ensemble baroque de Toulouse qu'on connaît évidemment beaucoup ici et qu'on aime beaucoup ici à Toulouse et à Audition en particulier, qui va faire cette création originale pour le festival. Donc ce sera une première. Et donc, il y aura l'orchestre, donc orchestre à cordes. Il y aura quatre chanteurs et puis un percussionniste multi-instrumentiste, avec un oud, psaltérion et autres instruments à percussion étranges. Tout ça pour donner peut-être encore un peu plus de swing et aller dans des dérapages et des prolongations tout à fait surprenantes. Alors, on ne sait pas encore très très bien ce qu'il y aura dedans. Le compositeur, le concepteur et qui est aussi le violoniste, le premier violon de l'ensemble,
Christophe Geller. Ouais, qu'on connaît bien.
Très doué. Aussi bon violoniste qu'improvisateur que compositeur, qui joue ses quatre saisons, mais depuis des décennies, pour qui c'est une œuvre fétiche et qui a dans le cœur des prolongations, des intuitions comme ça. Donc, encore une fois, il y aura l'intégralité des quatre saisons. Ce ne sera pas simplement les quatre saisons remixées avec une sauce un peu étrange. Non, c'est l'intégralité des quatre saisons, mais à l'intérieur de ces quatre saisons, entre les mouvements, ou parfois en fondu enchaîné avec les mouvements, ça je ne sais pas, des prolongements étonnants qui iront sans doute vers d'autres contrées musicales, d'autres époques. Est-ce que ce sera du côté des musiques traditionnelles, du jazz ou d'autres choses encore, musique du monde ou que sais-je? Mais il y aura des embardés comme ça, mais qui seront d'un goût absolument ajusté à l'esprit de ces quatre saisons. Ça, j'en suis absolument persuadé. L'ensemble baroque de Toulouse nous avait déjà régalé comme ça avec une caravane baroque un peu dans la même esthétique, dans la même idée, à partir de musique baroque comme point de départ, d'aller plus loin et d'emmener le public. Et ça a été un concert, on s'en souvient encore, c'était il y a 2 ans, ça a été vraiment du délire dans la salle. Et puis la joie de se rendre compte que toutes les musiques sont en écho, et quand c'est fait avec talent et avec goût, on décolle littéralement. C'est une expérience de concert, une expérience de musique vivante assez unique, d'aller au-delà d'une œuvre très connue.
Vous avez parfaitement attisé notre curiosité, Emmanuel Gaillard, pour ce Vivaldi Caprice de saison, concert de clôture des rencontres des musiques baroques et anciennes Audisud 2019. Ce sera donc le lundi 15 avril à 20h30 dans la grande salle d'Audisud. Il faut malheureusement conclure ce numéro de Mélomanie. Merci beaucoup, Emmanuel Gaillard, de vous être rendu disponible pour y participer.
Cher Eric, merci de cet entretien téléphonique. Je précise qu'il y reste un peu de place pour chacun des concerts. On sait parfois qu'à Audisud, c'est plus ou moins complet presque tout le temps. C'est pas tout à fait faux. Et bien là, pour tous ces concerts, il reste encore quelques places. Donc n'hésitez pas à contacter Audisud ou de regarder sur le site internet.
Très bien, merci pour ces précisions. Merci également à mes camarades Anne-Marie Chouchan et Serge Chauzy d'avoir co-animé cette émission avec moi en y apportant leur passion et leur expertise. Je rappelle donc que la 12e édition des Rencontres des musiques baroques et anciennes d'Audisud a lieu du 3 au 15 avril. 5 concerts sont donc programmés les 3, 4, 10, 14 et 15 avril. Pour connaître le détail des programmes, les lieux et horaires de ces concerts et pour réserver vos places, je vous invite à vous connecter au site www.audisud.com. Il reste encore des places, Emmanuel Gaillard vient de le préciser. D'autre part, je signale ce samedi 23 mars à 20h30 à l'église Saint-Exupère de Toulouse, le concert donné conjointement par les chœurs des maîtrises des cathédrales de Toulouse et de Bordeaux, au programme le Gloria de Vivaldi et le Miserere de Zelenka. Je signale aussi le prochain concert de l'Orchestre National du Capitole, samedi 30 mars à 18h. Avec Jean-François Zigel. Le programme est entièrement consacré à Beethoven et pour en savoir plus, vous pouvez vous renseigner et faire vos réservations sur le site de l'orchestre www.onct.toulouse.fr. Notez enfin que Musique au Palais présente un récital de l'excellent pianiste François Dumont, bien connu à Toulouse et dans notre région, dans le Gers notamment, vendredi 5 avril à 20h30 au Palais Niel de Toulouse. Il va jouer un très beau programme d'œuvres de Bach, Schubert, Mozart et Chopin. Il faut impérativement réserver vos places pour assister à ce récital et vous avez jusqu'au 2 avril pour ce faire. Je vous conseille donc de vous connecter dès maintenant au site www.musiqueaupalais.org pour réserver et acheter vos billets. Merci à Christophe Aubry d'avoir piloté la régie technique de cette émission qui est disponible en podcast et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité et très bonne semaine musicale à tous.